Dominique Morin.
Radio X.
Nick Payne, tu devais être sur le party solide des 48 dernières heures, toi, vive le Québec, tout seul, tatou de Pauline Marois, c'est l'enfer.
Tatou de Pauline.
Pauline Marois?
Oui. Ah, là, tête, là, tu vas me chercher loin.
J'aime Pauline, t'as pas ça de tatoué sur l'épaule?
Non. C'est excellent. Non, si tu veux vraiment parler de Pauline, moi, j'ai été dans un grand critique de Pauline Marois. Oh. Je trouvais qu'elle servait bien mal. Bon, je sais que c'est un peu ingrat de dire ça, Mme Marois est à la retraite et tout ça, pour tous les politiciens qui ont servi, bon, on se garde toujours une petite gêne, mais je considérais quand même qu'elle amenait le PQ sur la mauvaise voie en ce qui concerne son option. Mais c'est vraiment pas mon sujet de chronique aujourd'hui. Pour répondre à ta question, c'est une Saint-Jean en milieu de semaine, hein, fait que... puis moi, j'ai déjà mon diplôme là, dans la fiesta et tout ça. Ça fait longtemps que j'ai plus besoin de me prouver grand-chose.
T'as déjà fait des moches, c'est plein.
Non, pas c'est plein.
Je ne fais pas des moches.
J'étais pas dans la... Non, j'ai regardé les spectacles à la télévision comme un bon citoyen pantouflard. Et puis, j'ai fêté ça dans mon cœur.
On a de moins en moins de tounes de Saint-Jean. Hein. Les tounes de Saint-Jean, c'est toujours les bonnes vieilles mêmes tounes qu'on ramène. Il n'y a pas grand-chose dans le ciel à soir.
En fait, c'est que au Québec, on vit de façon plus, je trouve, cruelle, plus difficile qu'ailleurs parce qu'on est un petit marché, entre guillemets. La disparition des grands artistes qui rassemblent et que tout le monde connaît, là, parce que là, chacun a sa liste de lecture avec 5000 tounes dedans qui viennent d'à travers le monde entier. Il y a vraiment moins de ça. Donc, partant de là, t'as moins le grand hymne où tout le monde allume son briquet, là. Fait que, oui, ça paraît dans ces spectacles-là. Ouais, moi, il y a tout le temps...
Nostalgie est payante, là. Tu sais, veux pas avoir l'accueil qu'ont eu Claude Dubois puis Gilles Vigneault pour ces spectacles-là. On se rend compte que pour la majorité des Québécois, la vaste majorité des Québécois, la Saint-Jean-Baptiste, c'est encore cette gang-là.
Oui, bien, bon, par ailleurs, comment veux-tu ne pas avoir un pincement quand tu vois Gilles Vigneault qui a presque 100 ans, qui monte sur scène et qui est droit comme un chêne? C'est très beau à voir. Dubois est toujours un grand professionnel avec une des grandes voix du monde, mais c'est sûr que moi, quand je regarde ces spectacles-là, première anomalie, il y a tout le temps une bonne partie de ceux que je vois là que j'ai jamais vu de ma vie. Et je sais que j'ai peut-être pour certains l'air ringard, mais je sais que je suis loin d'être seul. On a un peu une approche franc-ouverte, nouveau talent. Ouais. Bon, puis c'est peut-être pas le moment. J'ai fait la comparaison. Je me suis amusé à aller voir des spectacles de la Saint-Jean du début des années 90. Hey, là, on était dans une autre ligue, tu sais, c'était des grands noms, la foule était immense, les chansons étaient très connues, c'était professionnel, très bien fait.
Puis il faut cocher des cases. Tu sais, à cette heure, les programmeurs de ces shows-là cochent des cases.
Ah oui, ça prend la sacro-sainte diversité. D'ailleurs, si tu veux savoir ce que je faisais, je suis passé dans une fête dans un parc pas loin de chez moi hier pour aller amener les enfants à jouer, puis c'était la fête de quartier. Et puis, et voilà, c'était toutes des têtes blanches bien canadiennes-françaises qui se déhanchaient devant un groupe qui cochait la case de la couleur de peau.
Ouais, c'est ça.
Et là, l'animateur disait « Ah, la belle diversité québécoise, c'est formidable. » Mais il n'y avait personne de la diversité qui était venue fêter, par exemple.
Ça ne les empêche pas de fêter, mais c'est parce qu'on sait que c'est l'agenda. C'est ce qui explique qu'ils font ça. Bon, ça nous prend un artiste autochtone, ça nous prend un artiste issu de l'immigration, ça nous prend un LGBTQ+.
Ça prend au moins 50% de femmes.
C'est ça.
Oui, puis y a-t-il un moment dans l'année où on peut... Je veux dire, si c'est pas à la Saint-Jean que tu fêtes tes racines puis ton idéologie la plus... Pardon, ton identité la plus profonde... heureux lapsus, mais ça va être quand? Moi, je pense pas qu'on est séduisant et qu'on attire là, vers nous en étant tout le temps en train de s'excuser. On dirait qu'on veut absolument dire à tout le monde qu'on a peut-être un problème ici avec la diversité et l'ouverture. Or, ce n'est pas le cas du tout. Le Québec, c'est une terre qui est très habituée à l'immigration, très accueillante, très douce. Et je trouve pas qu'on a besoin comme ça de tout le temps s'effacer pour montrer qu'on fait don ouvert. Ça aide pas le spectacle, ça non plus.
Ce matin, Nick, juste faire du pouce un peu sur Saint-Jean-Baptiste, je lisais Mathieu Bock-Côté qui nous expliquait pourquoi est-ce qu'on devrait être fier d'être Québécois. Est-ce que c'est normal qu'on soit obligé d'expliquer aux Québécois en 2026 pourquoi ils devraient être fiers de l'être?
D'abord, premièrement, on peut forcer personne à être fier de lui ou de ce qu'il est ou de quoi que ce soit. Mais là-dessus, j'ai pas du tout lu Mathieu, c'est drôle, je savais pas qu'il parlait de ça. Mais je vais dire une chose. Je pense qu'on confond les types, les stades, les niveaux, les sortes de fierté. Puis je m'explique. Commençons par dire là, que si... Par Québec et par Québécois, on attend simplement un territoire avec une adresse. Je vois pas tellement comment tu peux être fier de demeurer à un endroit plus qu'un autre, en tout cas, outre mesure. Si on admet qu'il y a au Québec une nation majoritaire, là, que c'est le foyer principal des Canadiens français d'Amérique, disons ça comme ça, là, oui, on peut se demander si on est fier ou pas. Et là-dessus, moi, je dirais que la fierté, c'est pas seulement être content de tes réalisations et de tes exploits, parce que ce compte-là, personne n'a vraiment de bonnes raisons d'être fier de son appartenance nationale dans le monde. Tous les pays ont des problèmes. Bon,
tous les pays ont eu des problèmes, ont eu des grands moments de révolte, de fierté.
Oui, c'est ça. Pour moi, la fierté dont on devrait parler ici, c'est très simple. C'est la conscience d'exister, le fait d'assumer ce que t'es, puis de demander le respect. C'est ça aussi, être fier. C'est donc formidable ce que je suis. Ben, c'est simplement, marchez-moi pas ses pieds.
Ça se peut-tu, Nick, aussi, que ça soit où est-ce qu'on s'en va?
Oui.
Tu sais, je suis
oui,
fier de l'endroit où on va. Parce que, tu sais, il y a plusieurs personnes qui nous écrivent, puis j'ai l'impression que les gens se cherchent des raisons. Ils aimeraient ça être fiers d'être Québécois, mais tabarnouche, la fierté vit sa COVID, là.
Oui, mais je pense que là-dessus, je te suivrai pas tout à fait. Là, on s'en va dans l'autre domaine de la fierté, qui est vraiment, je suis content de ce qu'on est. Puis quand tu dis où on s'en va, ça veut dire de l'avenir qu'on est en train de se construire. Donc, là, on rentre dans l'espace politique. Puis là, moi, tu me demandes si je suis content de ce qu'est le Québec aujourd'hui, puis de l'avenir qu'on se dessine, je suis pas certain du tout. J'aurais pas envie d'aller célébrer ça dans la rue. Bon, ensuite, si je prends un pas de recul sur ce type de fierté-là, je dois quand même dire, mais c'est le bon moment de l'année pour le faire, qu'en me comparant, je me console assez souvent, pas tout le temps, mais globalement, le Québec a aussi de très belles qualités, là, malgré tous nos échecs flagrants, là, notamment dans les politiques publiques, puis les finances publiques, tout ça. Mais c'est sûr que c'est aussi un peuple, tu sais, créatif, un beau circuit, beaucoup d'artisans, de gens passionnés de ce qu'ils font, le terroir, tout ça, c'est très intéressant. Puis là-dessus, je pense qu'on a de quoi être fiers. On a globalement de quoi être fiers de notre caractère...
C'est difficile d'attacher la fierté d'être Québécois versus... un pays souverain, une république, comme c'est écrit dans le Livre bleu, et la politique. C'est difficile de détacher ça parce que c'est un sujet qui est essentiellement politique.
Oui, bien, c'est sûr que aussi, c'est un projet politique qui fait appel à une certaine fierté ou
d'ailleurs,
qui a pour but de la réinstaurer, si tu veux. Là.
As-tu jeté un œil au Livre bleu?
Bien, une oreille, plus qu'un œil. Okay. Alors, c'est sûr que je sais un peu ce qu'il y a là-dedans. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est le... Bon, d'abord, premièrement, on sort ça assez le plus loin possible avant l'élection, je te dirais, hein, parce que c'est bien sûr que c'est le bar ouvert pour tous ceux qui vont vouloir trouver une virgule, un projet, une idée, une affaire qui font pas leur affaire, puis dire, bon, moi, ce projet-là, c'est pas pour moi. Et ça fait partie du jeu, c'est correct que ce soit comme ça, mais raison de plus pour pas se lancer trop hein, dans le cœur de la campagne électorale avec... une bible pareille sur les bras. Je veux dire, les autres partis ont de la misère à faire une plateforme électorale de 5 ou 6 idées. Là, tu as PSPP qui arrive avec le bottin de téléphone de tout...
Puis plus tu donnes du jeu à l'opposition aussi. Là.
C'est ça, exactement. Toutes les possibilités de te faire critiquer, de te faire rentrer dedans. Bon, globalement, ce que je dirais, c'est que ça peut être utile pour les péquistes, même si, évidemment, ça prête flanc à toutes les ridiculisations là, possibles et imaginables. Puis des fois, ça, ça relève de nos réflexes qui sont par ailleurs très québécois, là, de dire, quand même, là, on hausse les épaules, puis on se sent un petit peu nono de s'intéresser aux choses plus régaliennes comme peuple plus provincial. Mais je pense que c'est important que des gens qui se disent indépendantistes le fassent. Il faut que tu l'assumes. Ben oui, l'armée, ben oui, la monnaie, toutes ces questions-là. Le statut de république. Alors là, évidemment, pour certains, ça va sonner République de bananes, République dominicaine. C'est aussi important de dire que c'est ce que tu imagines comme pays souverain. Ben, je suis mes figues, mes raisins, c'est-à-dire que je pense que c'est nécessaire. Je pense aussi qu'il y a un grand risque politique et électoral avec ça. Mais il faut donner à PSPP qui assume son orientation et son projet.
Il a été capable de polariser le débat, ça, c'est certain.
Il laisse personne indifférent, on va dire ça comme ça.
Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée d'écrire le livre avec des voix juste à l'interne, sans consultation à l'externe, d'aller consulter des voix qui pourraient un peu être dissonantes par rapport à ce que le PQ peut penser?
Et que c'est un défi, ça, hein? Essayer d'aller chercher du monde. Par exemple, comment peut-on imaginer un fédéraliste dur qui va écrire là-dedans? Je pense pas.
Sans être des fédéralistes, mais aller chercher des voix qui sont pour la souveraineté, mais peut-être un peu plus simple.
Juste demander à QS. Aller chercher dans la frange des gens qui voteraient oui, mais pas pour le PQ.
Exact.
Ah, mais oui, mais là, c'est ça. Ça, c'est toute la question. Puis moi, tu me rejoins beaucoup avec cette question-là. Remarque que pour l'exercice du budget de l'an 1, que le PQ avait assez bien réussi, là, t'avais des gens comme Vincent Gelozo, par exemple, qui avait été consulté. Puis je trouvais que de ce point de vue-là, ça, c'était une vraie réussite. Cette fois-ci, quand t'es rendu à 500 pages, t'as beaucoup de contenu et tu vas forcément illustrer en grande partie l'idéologie qui domine au PQ et dans la famille proche. Hein? Alors, oui, je le lirai au complet avant de porter un jugement définitif là-dessus, mais mon petit doigt me dit que quiconque va être à droite du centre va être déçu. C'est à vérifier.
Ouais.
Mais évidemment, tu pourrais toujours dire la même chose pour les gens de Québec solidaire.
Mais Québec solidaire, c'est pas un parti souverainiste. Chaque nouveau membre depuis 7 ans n'est pas souverainiste chez Québec solidaire.
Une majorité des appuis de Québec solidaire, une solide majorité voterait pour le non, hein, dans tous les sondages depuis maintenant. Une décennie, là.
On a beau parler de la CAQ du Parti libéral, il reste qu'il n'y a pas un parti dans lequel ça va plus mal que QS à l'interne à l'heure actuelle. Ils ne sont pas capables de rassembler le monde.
Ben là, non. Puis interne, c'est un mot qui dit tout, parce qu'il n'y a pas grand monde là-dedans. Là,
c'est à l'interne, il n'y a pas grand monde.
Un petit noyau de militants woke, pur et dur, le kéfier, l'identité, le racialisme et le diversitarisme. Là tu vois, en deux événements en 2 semaines, là, l'enquête policière sur les allégations de racisme, QS a récupéré ça très, très grossièrement.
Ben parlons-en de récupération, Nick. On va parler de ça parce que, écoute, la semaine a commencé, c'est chapeau de roue, là, avec un drame monumental à Montréal lundi dernier. Hier, déjà, on avait des funérailles pour Mohamed Lamine Ben Redouane, qui est le policier qui a été victime. C'était également les funérailles de la victime civile qui a plusieurs pointes ce matin en disant que c'était un héros. Michel Munchi, Mizrahi. Est-ce que tu trouves qu'il y a eu de la récupération politique? T'sais, au lieu de se poser des questions à savoir on fait quoi avec notre monde quand ils souffrent d'un problème mental ou quand ils sont en totale psychose, on dirait que la gauche puis la droite se déchirent pour dire « Non, ce gars-là était dans votre gang. »
Je vais essayer de peser mes mots. On est encore dans une période très proche de l'événement horrible. Puis il y a des familles qui souffrent sans bon sens à l'heure actuelle. Perdre des gens jeunes aussi, là... ou en tout cas dans la force de l'âge, c'est pas drôle du tout. Donc vraiment mes sympathies à tout ce monde-là. Les premières minutes après l'événement, très peu de temps après l'événement, la presse disait la presse avait reçu déjà là, le manifeste du tueur et disait que ce manifeste s'inspire fortement de l'idéologie incel dont la rhétorique antiféministe et misogyne est à l'origine de plusieurs attentats. Là, déjà, je me disais, aïe aïe, quelle étrange affaire. On a lu le manifeste, on nous le résume, on peut pas le voir, puis on nous donne comme ça tout de suite une indication de ce qu'il faut penser, très, très, très forte. Est-ce qu'une idéologie aussi tantôt ridicule, tantôt violente ou très critiquée soit-elle, mène à des attentats? Est-ce qu'on peut écrire les choses comme ça? Parce que si oui, on n'est pas sorti de l'auberge. Ben, et puis là, ensuite, finalement, le fameux manifeste est sorti, puis tout le monde a pu le lire, puis on voit bien que c'est bien plus compliqué que ça.
Ben oui.
D'abord, c'est un drôle de zigoto, on va le dire.
Mais les gens qui sont de même, peu importe l'idéologie, là, c'est parce qu'il l'aurait fait, peu importe ce qu'il aurait pensé. C'est le genre de gars qui se serait craqué, qui était dû pour se craquer.
Non, mais c'est exactement là que je m'en allais. C'est qu'on surjoue les facteurs. Là, c'est la chicane à savoir, c'est-tu la faute de ton idéologie ou de la mienne? Non, non, c'est les incels. Ah, non, non, il était marxiste. Écoute, on s'en tape un peu de ce que ce pauvre type-là pensait. Je trouve qu'on oublie les autres facteurs, puis clairement, la santé mentale entre en ligne de compte. Alors là, les idéologues de gauche veulent pas qu'on dise ça. Non, 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 c'était pas un gars qui allait pas bien, c'est un incel, il faut dénoncer ça parce que c'est antiféministe. Et l'antiféminisme va mener à des affaires comme ça. Voilà une récupération inquiétante à mon point de vue, même si j'en suis. Moi, je veux qu'on la traque, la violence qui peut se développer envers les femmes, bien évidemment. Mais je trouve qu'on récupère et on fait de l'idéologie, on ratisse large. Et ce qu'on est un peu en train de dire, c'est ben, si vous n'êtes pas le chantre absolu et inconditionnel et continuel du féminisme tel qu'on le conçoit aujourd'hui, vous encouragez la violence. C'est ça, je trouve ça plutôt grave comme façon d'aborder les choses.
Surtout que c'est un gars qui était en profonde psychose, qui en voulait à la gauche parce qu'il protégeait tous les changements sociaux, qui en voulait à la droite parce qu'il protégeait le capitalisme.
Absolument.
C'est un gars qui en voulait à tout le monde.
Oui, puis j'ajoute un autre élément qui est commun à tous ces gars-là, parce que c'est toujours des gars, il n'y a pas de doute là-dessus.
Oui, oui, on l'assume, c'est des gars.
C'est une affaire d'hommes, c'est une affaire malheureusement là, de pulsions typiquement masculines, et c'est terrible, et oui, il faut en parler. Mais ce que tous ces gars-là ont en commun aussi, la plupart d'entre eux, c'est cette fascination morbide pour l'arme en tant qu'outil létal, le militaire. Hein, ils sont en tenue de combat. Le gars est en tenue de combat. T'es pas en train de combattre, t'es en train de lâchement attaquer des gens qui t'ont rien fait et qui t'ont rien demandé. Mm-hmm. Ils se prennent en photo avec leur arsenal. C'est pas rien. Là. C'est un élément important, je trouve, duquel on fait toujours abstraction. Vraiment une fascination pour la violence armée à partir de laquelle tu peux décider de la vie des gens. Comprenez-moi bien, je suis pas en train de dire la même chose que l'idéologie. Une arme en soi ne rend pas quelqu'un violent. Évidemment, c'est pas un bien comme un autre, une arme. Là. Alors...
J'ajouterais, Nick, à tes propos, qu'il y a une espèce de pudeur qui habite le discours ambiant là, dans les journaux, dans les télévisions, en fait, dans à peu près toute la couverture, c'est que l'attentat, en fait, les premiers coups de feu ont été dirigés en direction de Pornhub. Le siège social est à Montréal. Et ben ça, on oui. fait fi de ça. On parle de tout à peu près les torts que cet individu-là, Seth Hatfield, avait, qui a inspiré son fameux document que j'ai lu d'ailleurs. Mais ce qu'on doit rappeler, c'est que la cible, c'est pas anodin, là, c'est le centre mondial de la porn. Il y avait vraiment le désir de gonner une institution. Quelque chose qui ne fait pas son affaire pantoute, mais surtout, il s'est déplacé pour que ce lieu-là soit le lieu de son attentat. Puis ça, on fait fi de cette donnée-là dans à peu près tous les discours. On parle d'un gars qui s'est radicalisé, qui était contre les femmes, qui était marxiste, qui citait Hobbes. Mais tu sais, peu importe, mais on à la base, le gars, il a pris son char 3500 kilos pour gonner Pornhub.
Oui, mais là, Québec solidaire réagit en nous disant il est venu s'en prendre aux femmes. Ça marche pas. Il y a un énorme biais idéologique dans notre couverture de cette affaire-là. Moi, je suis très d'accord pour qu'on ignore le gars et son propos, mais pour les bonnes raisons. Faut pas ignorer une partie de l'affaire parce que ça colle pas à l'idéologie. Moi, je regrette franchement qu'on lui donne de l'importance à sa pensée puis à ses idées. C'est juste un monstre qui est venu commettre un attentat abominable. Alors, parlons-en, puis parlons des victimes, mais pas cette espèce de récupération idéologique. Alors, ce que tu viens de dire, c'est absolument parfait pour illustrer le problème. On n'a pas arrêté de se demander pourquoi il était venu au Québec puis à Montréal pour faire ça. Bien, c'est justement ça, le cœur de la démarche. Apparemment, il est venu se rapprocher de Pornhub.
Puis le manifeste, il faut arrêter. Là, c'est n'importe quoi. Des citations évidemment qui veulent rien dire, non, avec des ça noms. T'sais, Gary puis moi, un matin, on se disait, c'est pareil comme si je terminais la chronique en te disant, tu sais, Nick, Mick Jagger le disait, on ne peut pas avoir tout ce que l'on désire. C'est...
comme disait Bono, one love.
c'est n'importe oui, oui, quoi. C'est...
M'en veux de rire, là, mais c'est ça pareil.
C'est des citations qui sont complètement accessoires, voire même genre... esthétique là, dans ce texte-là.
Non, non, c'est ça. Et de ce fait, tu sais, c'est pas parce qu'il cite Marx qui est marxiste,
c'est
mais
ça.
Par contre, je veux pas non plus qu'on s'empêche de réfléchir au mouvement incel et de ce qu'il contient. Mais là, ici, on est d'abord et avant tout chez un pauvre type qui a une violence à assouvir avec des guns, puis en tenue de combat, puis qui vient nous faire un drame. C'est, je veux dire, c'est d'abord à ça qu'on a affaire. Ouais. J'aimerais quand même qu'on se calme un peu la récupération voilà idéologique. C'est un vœu pieux, mon affaire. Là, il est comme pas mal trop tard pour
mais
ça.
Mais Nick, tu sais ce que disait Gilles Vigneault, hein? Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver.
Oui. Et comme disait Sœur Angèle, non, je ne sais plus.
Peut-être
plus
pas. Les carottes sont cuites.
Merci infiniment de nous avoir parlé, Nick. Ce matin, on parle la semaine prochaine.
OK, quand vous voulez. Salut.
Bye
salut.
Bye. Nick Payne, à qui on parle. On va y parler pas mal tout l'été cette semaine. Faire le tour de la Saint-Jean-Baptiste, ça n'a pas le choix. Il fallait y aller avec Nick. 8h36. Parlons donc à Gary.
Gary, François Gary-Pi. On lâche le guidon avec François Gary-Pi.
Ça, c'est... c'est Max en adlib.
Oui.
Gary.
Moi, lâcher le guidon, j'adore ça.
Ben, c'est pas de lâcher le guidon.
Lâchons le guidon avec Gary ce matin. Ben, juste vous dire, là, faire du pouce un peu sur la chronique précédente. J'ai lu, moi, le fameux manifeste de Seth Hatfield. Hier, en journée de congé, je me suis dit, pourquoi pas gâcher cette belle journée-là à lire ces pages-là? Et ben, c'est une lecture qui est quand même ardue et surtout un peu ennuyante. Je l'ai même passé dans l'analyse de IA pour savoir... Parce que je lisais à peu près tous les commentaires qui ont été faits sur cette... sur ce manifeste-là, je lisais... en fait, j'écoutais notamment la journaliste de La Presse, Léa Carrier, qui faisait la nomenclature de ce qui se dit en lien avec ce manifeste-là. Puis je me disais, peut-être qu'elle l'a pas lu, hein, puis je vais le lire, je vais quand même faire l'effort. Selon IA, en fait, parce que j'ai rentré le texte de 100 quelques pages, j'ai demandé le pourcentage du texte, en fait, qui est en lien avec la misogynie et l'idéologie, incel. Oui, oui, c'est assurément majeur dans ce texte-là. Presque 40 % du texte s'y intéresse, en fait, et puis la pensée débile de Seth est étayée, ça va de soi. Mais je vais revenir, en fait, sur la question même que j'ai posée à Nick Payne. On fait fi de, en fait, l'enjeu numéro un, c'est-à-dire, le gars prend son char. En fait, c'était pas son char, c'était pas la Jetta qu'on a vue dans la presse.
C'était pas le sien.
Prend un char, va vers Montréal et décide pas de gonner le Centre Bell ou le Stade Olympique. Non, non. Ouh. C'est le headquarter de la porn mondiale.
Le temple de la porn.
Le temple de la porn. On sait qu'il n'y a pas d'actrices qui travaillent là. C'est plutôt des geeks qui ont des grosses lunettes et qui font de la programmation. Mais la geste, le symbolique était ô combien important. Et on en fait fi dans la couverture. J'ai demandé, cette vision-là, cette haine de la pornographie, elle s'incarne en pourcentage dans combien dans le texte? 25 %. C'est quand même 25 % du texte et on n'en entend pas parler, cette haine-là, la diabolisation de l'industrie pornographique, ce qui le meut vraiment là, d'une façon intrinsèque, le gunner de Montréal.
Ouais, il en veut tant que ça, pornographie. Hein? Il a juste à pas regarder.
Il y a un problème avec son compte.
Ouais, c'est ça. Son compte Prime.
Ah, ça passait plus, là, il est en beau fusil.
Ben non, mais lui, il dit que c'est. En fait, en résumé, là, c'est l'amalgame pour Hatfield, c'est que la pornographie, c'est l'outil de la destruction. Destruction de quoi? Ben, le féminisme et les femmes sont la cause sociétale d'un complot. Parce que là, on parle d'un vrai complotiste. Tu sais, dans Radio X, on se fait des fois traiter de complotiste. On a espèce de l'image.
Liberté!
Tu sais, l'espèce de complotisme, là, un peu. nono, là, anti-vaccinal, tout ça, cette mouvance-là. Mais le vrai complotisme, là, c'est lui qui voit un complot de femmes, un complot de pornocrates, un complot de juifs.
De pornocrates, quand même, c'est un mot que tu as dit, là.
Oui, oui, pornocrates, les gens qui vivent de la pornographie, les gens qui sont au top de la pyramide, là, pour les actrices qui se font crosser, là, puis qui se font avoir.
Des hommes d'affaires.
Ah oui, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires aussi. Donc, je pense qu'on n'a pas bien saisi le message de cet homme-là, un message complètement débile. Puis on fait des espèces de références, là. Il serait marxiste, il serait... tu sais, je veux dire, ça n'a aucun sens. C'est des petites citations, c'est cosmétique. Tout son texte est enrobé de citations pour flasher ton texte. C'est comme si tu citais Marimé, tu sais. Mentir pour fuir. Je veux dire, ça n'a aucun rapport. C'est juste cosmétique.
Comme le disait Marimé, mentir pour fuir, that's it.
Pour fuir.
C'est comme s'il est allé sur Google et il avait tapé Karl Marx citation.
C'est vous qui est-ce qui fait ça? Jean-Daniel de la Graveline.
Puis là, vous allez me dire, pourquoi Gary est en colline de même à ma... C'est un étudiant philo. Je suis un ancien étudiant philo. Je le vois, là, que son travail, c'est de la merde. C'est bâclé. Puis c'est une espèce de ramassis, une espèce de collage d'idées incompréhensibles. En fait, sans valeur, légitimé par des auteurs qui n'ont jamais demandé d'être dans son texte. Fait qu'on se retrouve avec une espèce de manifeste qui est un vrai délire.
Est-ce qu'il serait possible aussi que son manifeste ait été écrit en grande partie par l'IA?
Ben, ça se pourrait, parce que, bon, c'est pas le gars qui avait le plus de style. Moi, j'ai lu la traduction, j'ai pas fait l'effort de le lire dans la langue anglaise.
C'est à Saint-Jean.
C'est à Saint-Jean, j'ai mis ça dans Translate, mais ça m'a pris comme plusieurs heures analyser tout ça, puis le lire, puis de... non pas m'en délecter, mais avoir le cœur qui me lève, puis de voir surtout que la couverture fait fi d'à peu près tout ce que j'ai compris de ce texte-là ou tout ce que j'ai pu retenir de ce texte-là. C'est que oui, il y avait une ambition destructrice contre la femme, mais on oublie qu'à la base, une haine des Juifs est... Dans son texte, là, on le sent habité d'une haine des Juifs, là, une haine sioniste, comme on peut rarement la vivre au Canada.
Mais comme le disait Johnny dans Danse lascive,
ah oui, vas-y.
On ne laisse pas bébé dans un coin. Bon. À part le résumé de...
Hey, j'ai peut-être une sortie musicale en fin de semaine. À l'Agora du Vieux-Port, c'est le 27 juin. Est-ce que ça tente de dégainer ton Spotify, toi qui es si rapide comme ça, pour mettre une petite toune? Deux groupes canadiens sont à l'honneur, donc c'est samedi soir, c'est ici même à Québec. Ed Pins et Honeymoon Suite seront de la partie. Moi, j'aime bien. Là. Est-ce que tu peux mettre Feel It Again? Feel It Again de Honeymoon Suite pour qu'on puisse en parler un peu. Un groupe qui est quand même venu souvent à Québec. Là, la dernière fois, je pense que c'était au Capitole de Québec.
Ça vient de vieux, un brin. Hein?
Ben là, c'est sûr que s'ils sont plus vieux que moi, ils sont vraiment vieux.
Ouais. Est-ce que la qualité musicale est encore au rendez-vous? Ou...
Ben, au niveau de la précision du jeu?
Ben, je te dirais que dans l'ensemble de l'œuvre,
en spectacle,
à 80, c'est comme plus tough.
Ils sont peut-être pas à 80, mais Ed Pins a quand même changé trois fois de chanteuse. Là. C'est des gars de Chilliwack, entre autres. Donc, je m'attends à une... Tu sais, jouer de la guitare à 71 ou à 21, ça se peut que ça soit la même affaire. C'est chanter souvent le problème. Donc, Ed Pins et Honeymoon Suite seront à l'Agora en fin de semaine. Et je terminerai peut-être avec une confirmation en lien avec le groupe Twisted Sister, qu'on apprécie quand même ici à Québec. Je les ai vus plusieurs fois. On sait que Dee Snider, trop vieux, trop malade, a renoncé comme ça au micro de Twisted Sister. C'est Sebastian Bach qui a pris la relève, le chanteur de Skid Row. Et on a eu quelques essais, là, non maquillés, avec aucun costume de Twisted Sister. Et ça a été concluant. La preuve, c'est que Sebastian Bach, avec Twisted Sister, on a annoncé des dates supplémentaires, dont deux dates canadiennes à Niagara Falls et Windsor. On a l'espoir qu'un jour, Twisted Sister, avec leur chanteur Sebastian Bach, vienne à Québec.
Bon, ça va être l'enfer, hein?
Ben, moi, je vais être là.
Ils font quoi en show, toi, Twisted Sister? Les deux mêmes tunes en boucle?
Ben, ils font I Wanna Rock, ils font We're Not Gonna Take It, The Price. Mais ils ont aussi des albums beaucoup plus costauds parce que Twisted Sister, c'était comme un peu les Respectables de New York. À une certaine époque, ils faisaient la tournée des bars, puis ils étaient saturés, ils étaient comme pognés dans le circuit des bars, ils n'étaient pas capables de percer. Ils ont déménagé en Angleterre, ils ont fait leur premier album. Et c'est là que ça a explosé. Un peu comme Jimi Hendrix, qui pognait pas aux États-Unis et qui a fallu qu'il s'exporte en Angleterre pour devenir l'homme qu'il était.
Est-ce que tu me confirmes qu'il avait le même sex appeal que les Respect quand ils faisaient tourner des bars?
Le même sex appeal que toi, mon beau Dan.
Tabarnouche.
En direct des toilettes du Saint-Clair.
Je sais pas quoi répondre à ça. Ouais, oui.
Masterclass avec Dan Gravel.
Merci, Gary. Raider Sports s'en vient dans Montréal Live.
Live. On revient dans pas long.
Désolé.
Radio X.